Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h à suivre Eva Rock pour son zapping du lendemain sur un artiste qui a vendu plus de 5 millions d'albums. Une petite surprise. Et Bertrand Chamerois pour son écran de veille spécial Pitchoun, comme on dit à Nice. Notre invité culture, c'est la romancière Anne Goscinny, écrivaine et héritière des œuvres de son papa René Goscinny, le génial créateur d'Astérix. Elle vient pour le 5e tome du Monde de Lucrèce qu'elle écrit. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans les indispensables de la musique avec Angèle Châtelier en direct des Inouïs du printemps de Bourges et un documentaire qui va vous faire lâcher votre téléphone avec qui ? Eva Rock. La star de la matinée, Eva, bonjour.
Je suis désolée, je ne reviendrai pas si vous voulez.
J'en suis
ravie. Bonjour,
merci d'être avec nous. Bonjour, Bertrand Chamerois.
Bonjour, elle est partout, Eva.
Mais ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes jaloux, Bertrand ?
Un peu.
Ah, voilà,
mais moi, je suis ravi.
Vous revenez avec moi.
C'est l'heure de votre écran de veille, Bertrand. Chaque jour, vous scrutez les programmes télé, tous les programmes télé. Qu'avez-vous regardé hier ?
Bien, hier, c'était le jour des enfants et je me suis surpris à repenser avec nostalgie aux mercredis après-midi de notre enfance. On en garde tous des souvenirs très forts. Moi, je l'ai passé devant les Minicum, Eva devant Thierry Lafronde et Philippe devant un boulier. Alors, je ne sais pas si c'est...
Qui n'est pas un dessin animé.
Non. Je ne sais pas si c'est dû au lourd climat du moment, mais j'ai entendu à un moment la voix de Patrick Sébastien résonner dans ma tête et me dire... Putain, 2020, on dirait un canular du Grand Bluff. Est-ce qu'on retrouverait pas un peu notre insouciance, bordel ? Et c'est ainsi que j'atterris sur le canal 18 de la TNT, où j'ai découvert un univers parallèle duquel les mots quiétude et sérénité sont bannis. Ce monde, c'est Gulli, la chaîne des petits. Et le mercredi après-midi sur Gulli, ça se passe comme ça.
C'est tous les mercredis, c'est sur Gulli et c'est complètement crazy.
L'émission s'appelle le GU Live, une émission qui, comme son nom l'indique, est une émission en... enregistré, il y avait un piège. Le principe, deux équipes de deux enfants épaulées par des célébrités qui s'affrontent au cours de défis et de quiz, le tout emmené par l'animateur Johan. Johan qui se livre à des révélations très intimes aux artistes invités.
Bah en fait, elle se contracte avec le froid, donc elle perd des centimètres.
Qu'est-ce que vous allez imaginer là ? Il parlait de la Tour Eiffel. Eh, ça va, on peut plus déconner ou quoi ? Alors, le GU Live, c'est aussi des quiz de culture générale. Et le niveau des questions est assez... Comment ? Je dis pas qu'ils prennent les enfants pour des cons, mais quand même.
Lequel est un plat grec ? La moussaka ou la moussakaka ?
Pas évident.
Ah oui, non.
Eva, une idée peut-être.
Je vais réfléchir
voilà,
en même temps.
C'était la moussaka. Niveau ambiance, le GU Live, c'est comme les jeux de France 3, mais sous acide. Tout le monde est hystérique du début à la fin. C'est une expérience vraiment à part entière. Alors, petite pensée pour nos auditeurs qui ne seraient pas encore totalement réveillés et qui vont subir ce qui suit. Voici le GU Live d'hier, résumé en 9 secondes. Mais foutez-leur du Xanax dans le Nesquik, bon sang ouais. Et là, je pense avec beaucoup d'émotion aux parents en télétravail qui ont posé leurs enfants devant Gulli dans l'espoir de les calmer. Raté. Et c'est pas le GU Live qui va les bercer, ni les pubs diffusées pendant le programme qui vont pas non plus les apaiser.
Hashtag
C'est absolument insupportable. Là, logiquement, après 20 minutes devant Gulli, votre enfant a déjà attaqué le canapé avec les dents et se balance au lustre en hurlant, le slip sur la tête. Voilà, en gros, c'est ça le GU Live. Alors, pour me faire pardonner, je vous offre ces quelques secondes de relaxation.
Détendez-vous. Reprenez contact avec l'apaisement. Oubliez l'expérience auditive que vous venez de vivre. Laissez-vous chatouiller les oreilles. Dans un instant... Le zapping du lendemain des Varrock. Je vous laisse. Je vais casser mon bureau à coups d'objets contondants pour me calmer.
Ce type est fou.
Merci, merci, Bertrand Chamerois.
Je vous en prie, faites-vous bien et calmez-vous.
Calmez-vous. Et Varrock.
Ah bah je vais vous remettre du son dans les oreilles, moi,
ouais.
Vous allez voir.
Un temps d'avance, comme toujours. Oui. Et là, vous arrivez avec un seul documentaire. Mais quel documentaire ? C'est un événement sur Netflix.
Et Bertrand, on parlait des enfants. Et je suis sûre que vos enfants écoutent cette musique à longueur de journée. Sinon, vous pourriez être un peu dépassé par le documentaire dont je voulais vous parler ce matin. Un film consacré à cet artiste qui a vendu plus de 5 millions d'albums. Bertrand.
Maître Gims.
Mais exactement, qu'on appelle Gims.
Gims maintenant.
Oui. Attention, oui, oui.
Il
attention.
Il a arrêté ça. Gims.
Mais oui, 34 ans, grand, costaud, sapé et lunettes noires en permanence pour cacher ses yeux. Sa marque de fabrique, ce n'est pas une coquetterie. Ça fait partie de son personnage sur lequel se penche donc le réalisateur Florent Baudin. Alors je dois concéder avoir regardé avec la plus grande des curiosités parce que je ne connaissais absolument pas le parcours de ce garçon né au Congo, un enfant de la rue trimballé, de foyer, en squat et qui trouve dans la musique un refuge et une bande d'amis. Ce sera Section d'Assaut. Mais les premiers temps, écoutez bien, sont difficiles.
La journée, on est avec les potes et tout. Après, bon, moi je dis je rentre, je fais semblant de dire je rentre, mais je rentre nulle part en fait. Donc je pars, je marche, je me balade sur les grands boulevards, je vais à la Fnac, j'écoute les albums. Je faisais que de rêver, rêvasser, vraiment rêvasser. Je fais des nuits blanches, je dors dans le métro, entre guillemets. Le métro, il roule, il fait toutes les stations, il s'arrête, terminus, tout le monde descend, je dors. Il refait le tour de Paris, je dors chez des potes, on dort dans des cages d'escalier, je cascade vraiment, c'est ça, ma vie, c'est ça.
Et puis le succès arrive, l'argent avec, un changement de vie radical pour Gims et pour sa famille. Le petit frère d'Adjou va se lancer aussi dans la musique, avec succès. Et alors écoutez bien, parce qu'entre eux, il y a vraiment une compétition.
Vince, il ne laissera personne passer devant lui. Personne. Tu peux être son père, il va pas te laisser. Il va pas te laisser. Mon but, c'est de passer devant lui. Et son but à lui, c'est que je monte, tu vois. Mais que je sois juste derrière son épaule, tu vois.
On est clairement en concurrence. C'est dingue. Ça me fait tout drôle, ça me fait bizarre. C'est un sentiment de fierté. En même temps, bien sûr, il devient un concurrent aujourd'hui parce qu'il se positionne. Même s'il n'a pas ma carrière, etc. Mais il va certainement l'avoir et peut-être aller encore plus loin. Je ne sais pas.
Enfin, s'il reste derrière, c'est quand même mieux, vous le verrez, voilà. Donc, le documentaire suit Gims dans sa tournée en studio, en famille, au Maroc, auprès de sa femme et de ses enfants, mais au Congo aussi. Il y retourne pour la première fois en 2017 et où son père était déjà une star de la chanson. Il parle d'argent, de célébrité, du showbiz et de ses dérives. Et on le découvre travailleur déterminé et spirituel. Chrétien, Gims s'est converti à l'islam, il le raconte. Un changement de religion qui l'a conduit à changer de vie. On oublie la fumette, on oublie l'alcool. Il revient également sur une période compliquée en 2005 quand il a rejoint une secte islamiste. Il en sortira d'ailleurs rapidement. Le documentaire est extrêmement bien écrit et extrêmement bien réalisé. Ça pose aussi un autre regard sur Gims et sur la musique urbaine. Le seul bémol, vous ne verrez aucun détracteur, mais toutes les questions sont posées. Ça au moins se mérite là. Je vous recommande chaudement ce documentaire à voir sur Netflix. Il a été mis en ligne depuis quelques minutes.
Voilà. Merci beaucoup Eva Rock. Merci Bertrand Chameroy.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Anne Goscinny.
Bonjour Philippe.
Vous êtes romancière, mais pas seulement. Avec un nom pareil, on ne peut pas ne pas dire que vous êtes la fille de votre papa. René Goscinny, peut-être le plus génial scénariste de bande dessinée, créateur d'Astérix, du Petit Nicolas, scénariste du Lucky Luke et tant d'autres, fondateur du journal Pilote, magazine qui a changé à lui seul l'univers de la BD. Et vous n'écrivez pas seulement des livres pour vous occuper, mais ils se vendent. Notamment une série publiée chez Gallimard Jeunesse pour les 8-12 ans. Ça s'appelle Le Monde de Lucrèce avec des illustrations de Catel. C'est une dessinatrice et les auteurs ou autrices de romans graphiques. La série Lucrèce est déjà vendue à plus de 150 000 exemplaires. Le tome 5 vient de sortir, ou peu s'en faut. Pour qui ne connaît pas, qui est Lucrèce? Est-ce que c'est encore une référence à votre papa? Est-ce que c'est le petit Nicolas, mais en fille?
Alors, Lucrèce et le petit Nicolas ont en commun un évident ADN, ouais. Puisque je suis la fille de mon père, voilà. Lucrèce, c'est une jeune...
Mais est-ce que vous êtes dit, en le créant, tiens, je vais faire le petit Nicolas en fille?
Absolument pas, parce que sinon, j'aurais pas commencé. Parce que quand on est l'enfant de Mozart, on se lance pas dans l'opéra, on fait du jazz ou du tango. Donc ouais. Je me suis dit, marcher dans les traces de mon père, c'est forcément voué à l'échec. Donc je me suis dit... je vais créer une jeune fille, puisque c'était Catel qui un jour m'a dit « Écoute Anne, les romans que tu écris sont sinistres, mais toi t'es beaucoup plus drôle que ça, pourquoi on ferait pas ensemble quelque chose de drôle ?» Je lui ai dit « Mais drôle, moi jamais !» Et puis fidèle à mon proverbe préféré qui est « Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis », un mois plus tard, elle avait sur son mail 3 histoires de Lucrèce. Et c'est parti comme ça, et c'est parti dans un éclat de rire, et c'est parti grâce à cette complicité qu'on a, elle et moi.
Il faut évidemment raconter votre histoire personnelle. Votre papa est mort quand vous aviez seulement 11 ans. 9 ans. Vous avez raconté ça dans un livre très touchant qui s'appelle Le bruit des clés que j'avais lu en son temps chez Nil. Lucrèce, c'est la vie rêvée que vous auriez rêvé d'avoir?
Alors Lucrèce, elle a 11 ans, elle rentre au collège, elle vit dans une famille recomposée, sa mère s'est remariée. Et Lucrèce n'a pas de gros problèmes. Lucrèce n'a pas de problème. Lucrèce vit sa vie, aime sa famille, ses copines, son collège. Et les enjeux qu'on trouve dans le monde de Lucrèce sont des enjeux tout petits, desquels je fais des montagnes, en fait. C'est ça la gageure.
Mais l'idée, c'est ça. C'est que vos enjeux, ils étaient immenses.
Voilà. Et en fait, évidemment, Lucrèce, c'est un peu moi en creux. et beaucoup ma fille Salomé, qui a 17 ans, donc qui a eu 11 ans il n'y a pas si longtemps. Et c'est vrai que je me suis pas mal inspirée d'elle. D'ailleurs, de temps en temps, elle me dit « et mes droits d'auteur ». Bon, là, il faut que ça s'arrête, d'ailleurs.
Dix histoires dans chaque livre. Il y a un thème général ou
non,
pas ?
Non, c'est des histoires. C'est comme, par exemple, un jour, elle veut se faire percer les oreilles. Un jour, elle veut aller chez le coiffeur. Un jour, elle a un contrôle de maths. C'est un peu des histoires au fil de l'eau, sans thématique, sans fil conducteur. Mais c'est surtout des histoires où je m'amuse beaucoup. Et mon premier public, c'est Catel, mon ami Catel. Et l'idée, quand j'écris, c'est est-ce que ça va faire rire Catel ?
Ouais.
Voilà. Et quand elle m'appelle après avoir lu les dix histoires et qu'elle me dit « je me suis bien marrée », c'est mieux que la Légion d'honneur.
C'est juste un mot pour Catel, ça veut dire qu'elle a l'humour d'un enfant de 8-12 ans.
Oui, elle va être très très contente quand elle va entendre l'émission.
Bah oui, c'est vrai, et on la salue.
Mais vous savez, j'écris pour 8-12 ans, mais j'écris aussi pour les parents qui lisent à leurs enfants des histoires. Parce que moi, j'ai tellement lu d'histoires à mes enfants, je me suis tellement ennuyée que je me suis dit pour que les parents ne s'ennuient pas.
Alors j'ai lu et c'est très agréable. Vous écrivez, vous faites dire à Lucrèce qui est un peu énervée. Dans la première histoire, c'est l'histoire de Gaufrette. Je ne raconterai pas qui est Gaufrette. Et Lucrèce dit « Je suis partie dans ma chambre. Il y a des jours où j'envie les enfants uniques. » Or, vous êtes enfant unique.
Je suis enfant unique, mais ma fille n'est pas enfant unique puisqu'elle a un grand frère qui s'appelle Simon. Et c'est vrai que souvent, on m'a posé la question « Mais est-ce que tu aurais aimé avoir un frère ou une sœur ?» D'abord, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. Nous, les enfants uniques, on ne sait pas ce que c'est. Et puis, on tire forcément plein d'avantages à être enfant unique. On est l'unique objet de l'admiration de ses parents, de ses grands-parents, etc. Donc finalement, j'ai tiré avantage de ma triste situation.
Ouais, votre triste situation. Y a aussi une histoire de fugue. Mais alors, c'est à front renversé parce que c'est pas l'ado qui fugue.
Non, c'est la grand-mère. Voilà, j'ai créé le personnage de la grand-mère qui s'appelle Arlette, mais qui se fait appeler Scarlett parce qu'elle était très amoureuse de Red Butler.
Ouais.
Et elle est complètement loufoque. Elle picole, elle aime les mecs, elle aime les fourrures. Enfin, tout ce qui n'est pas politiquement correct. Et ça m'amuse beaucoup. Et je rends hommage à Gallimard qui me laisse quand même très, très libre de la faire picoler comme elle veut. Un jour, ils m'ont un peu convoqué quand même en me disant « Dis donc, Anne, en 10 histoires, on a des nombres 11 alcools. Est-ce qu'on ne peut pas en supprimer un ou deux ? Voilà. Mais bon, moi, ça me fait marrer. J'aime ça, quoi.
Vous êtes en direct avec nous dans ce studio avec une bouteille d'eau minérale. Anne Goscinny est notre invitée dans Culture Média. Hélène Manarino va nous rejoindre tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Anne Goscinny, qui publie chez Gallimard Jeunesse Le Monde de Lucrèce 5, illustré par Catel. Je vous présente Hélène Manarino. Je ne vous la présente pas. Vous connaissez Hélène Manarino ? Vous connaissez
Bonjour Hélène.
Vous
Bonjour
connaissez
Anne
ses Goscinny. Portraits ?
Je suis très cliente de vos portraits, ouais.
Oh, ça me touche beaucoup, merci.
Vous l'avez déjà entendu ?
J'ai entendu notamment le premier qui était celui de mon ami Sorge Chalandon. Et d'abord, j'ai été émue de son émotion. Je me souviens, je me demande même si je n'avais pas versé une larme. Et surtout, je m'étais dit, est-ce qu'un jour, j'aurai un livre qui marchera suffisamment pour qu'Hélène s'intéresse à moi ?
Waouh, quel hommage !
Voilà. Donc je crois qu'en sortant, je vais appeler Sorge et je vais lui dire, bah, tu vois mon pote, maintenant on peut déjeuner ensemble.
Je suis très émue par ce que vous venez de dire. Voilà. Alors, bonjour.
Ah, Hélène, elle a la petite larme.
Oui. Bonjour Anne Goscinny.
Bonjour Hélène.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Construire des personnages, leur inventer un mobile, un destin, des amours, c'est ce que je préfère au monde. C'est ce que vous avez déclaré, Anne Goscinny. Alors je vous propose ce matin de construire le roman de votre vie. Votre préface pourrait être écrite par Pablo, votre chat. Et oui,
oula,
on construit des personnages
ce
matin. Pablo, c'est votre troisième enfant. Vous lui parlez tout le temps. Alors, il ne vous aime pas beaucoup, apparemment.
C'est vrai.
Le pire, c'est que c'est vrai. J'ai acheté un chat pour qu'il m'aime et il s'en fiche, quoi.
Voilà.
Alors, commençons notre livre avec le premier chapitre. Les bases, vos bases. Petit déjeuner vers 9h-10h avec un café faux sucre. Un petit déjeuner que vous prenez toujours dans la salle à manger et face à vous. Il y a un tableau qui appartenait à votre père. Et depuis toujours, vous prenez votre café face à ce souvenir. C'est vrai que vous vous levez plus tard, mais vous aimez regarder la télé très tard dans votre lit.
Alors, je vois à peu près les sources. Je me lève tard parce que j'écris tard.
Et bien, j'y arrive, justement, parce que vous vous couchez tard.
Et après avoir écrit, c'est vrai que je regarde un peu la télé.
Vous regardez, alors, les docs, parfois, les documentaires sur Énergie 12, type Tellement Vrai, L'amour est dans le pré, sinon...
Ouais. Oh là là, on est dans le dur, là.
Ça, n'oubliez pas que ça se sache. Hein.
Mais je suis folle de Tellement Vrai.
C'est vrai.
Votre passion du moment, c'est Family Business, la série. Et vous aimez beaucoup. Alors après votre
parce que je suis très amoureuse de Gérard Darmon et Enrico Macias. Je crois que ça y est, il faut que je fasse mon coming out. Enrico, si tu m'entends.
Après votre petit déjeuner, vous aimez arpenter la Fnac, les librairies, manger chez le chinois en bas de chez vous que vous surnommez Mamoseille et vous commandez tout le temps un Coca-Aille.
C'est quoi un coca ail?
C'est-à-dire que Mamozei est une dame chinoise extrêmement gentille qui parle très très mal le français. Et un jour, je lui ai demandé un coca zéro. Elle m'a dit non, je peux que coca ail. Donc. J'ai compris que c'était un coca light. Donc voilà. Mais je vois que vous êtes, incroyablement renseigné.
Vous pouvez ensuite vous détendre en faisant des points de croix parfois. Alors vos petites habitudes qui nous emmènent naturellement devant le chapitre 2, vos enfants à qui vous aimez raconter la rencontre de vos parents. C'était lors d'une croisière, votre papa mangeait des fleurs à table pour séduire votre maman. Et qu'elle l'aborde en lui disant « Mais pourquoi faites-vous cela ?» Alors vous aimez appeler votre fils et ses amis les trolls, plutôt mignons. Votre fils qui s'appelle Simon et pour qui vous avez tout fait pour qu'il n'ait pas de remarques négatives dans son dossier scolaire et qu'il ne soit pas exclu. Il était au collège et vous aviez été convoqué par la prof de latin à 19h. Vous êtes rentré à minuit parce que vous avez tout fait pour que la prof change d'avis. Vous l'avez raccompagné chez elle à l'autre bout de Paris. Vous lui avez parlé pendant des heures. Résultat, pas de mots, pas de colle et pas de rapport pour votre fils.
C'est dingue, c'est vrai.
Non, mais là c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faisait n'importe quoi en latin. Il s'appelle pas Simon Goscinny puisqu'il porte le nom de son père et donc de mon mari. Et donc je suis arrivée, elle m'a dit oui, écoutez, alors votre fils c'est impossible, il est insolent, il fait rien. Et moi je lui ai dit mais comment avec ce nom-là, avec ce grand-père-là qui a popularisé le latin au fil de ses bandes dessinées. Alors là elle commençait à me dire mais de qui vous parlez? Je dis Simon est le petit-fils du créateur d'Astérix. Et c'est quelque chose dont je ne me sers jamais. Mais là on était au bord de l'expulsion du lycée et j'ai sorti les rames.
Avez réussi parce que vous ne lâchez rien.
Je lâche rien. Les enfants, je lâche rien.
Vous aimez aller au cinéma tous les dimanches avec votre fille. D'ailleurs, vous êtes récemment tombée amoureuse d'un acteur allemand, Sébastien Koch. Et surtout, vous aimez regarder Les Demoiselles de Rochefort en boucle avec elle pour notamment entendre votre chanson préférée.
À présent, je suis seule comme un amant déçu. J'ai voulu voir la ville où je l'avais connue.
La chanson de Simon, votre fille qui s'appelle Salomé, que votre mari voulait appeler Salomé Lucrèce. Vous avez du nom et quelques années après, vous avez donc créé ce personnage pour également faire plaisir à votre mari, des enfants à qui vous avez transmis votre passion que l'on connaît, Anne Sylvestre.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer.
Alors vous le dites souvent, en revanche ce que l'on sait moins c'est que vous êtes capable d'acheter 10 places dans de ces concerts pour emmener tous vos proches qui ne la connaissent pas. La musique et la fête, vous aimez ça, Anne Goscinny. Passion. Au chapitre 3. Passons au chapitre 3, chanter.
Il faut passer parce que là vous avez la petite larme.
Non, mais c'est vrai que Anne Sylvestre est la grande passion de ma vie. Une histoire très très rapide. Elle m'avait invitée à un de ses concerts juste après la mort de ma mère. C'était une amie de ma mère. Et après j'étais allée la voir. Et je lui avais dit bonjour, merci de m'avoir invitée, je suis la fille de Gilberte. Et elle m'avait regardée, elle m'avait dit mais non, t'es pas la fille de Gilberte, t'es Anne. Et ce jour-là, j'ai été baptisée par Anne Sylvestre.
Alors vous aimez chanter, danser, des danses surtout pendant les vacances à la mer. Attention, vous avez la phobie du sable, vous n'aimez pas beaucoup. Et puis, vous travaillez énormément, toujours sur votre lit, avec votre ordinateur, entouré de vos pierres. Pierre pour l'amour, pierre pour un autre sentiment. Et puis, il y a ces souvenirs sur l'œuvre de votre père. En 1999, Claude Berry vous appelle en affirmant qu'il souhaite vous voir. Il sonne, se présente, il vient avec un sac rempli de cassettes de ses films, vous êtes dans votre salon, il vous dit « Je suis Claude Berry, je veux adapter Astérix au cinéma, voilà tout ce que j'ai réalisé ». Vous l'arrêtez et vous lui dites « Je vous dis un grand oui » puisque vous avez réalisé Le Vieil Homme et l'Enfant. Il a donc ensuite réalisé le film Astérix et Obélix contre César. D'ailleurs pour ce film, Laetitia Casta jouait Cléopâtre et vous étiez à l'aéroport toutes les deux. Vous arrivez devant le comptoir de la compagnie, l'hôtesse prend vos passeports et elle vous dit « Laetitia Casta, c'est laquelle ?»
Et là, je dois dire que mieux que la Légion d'honneur, là, je dois dire que cette hôtesse allemande qui avait dû vivre dans une grotte jusqu'à son 40e anniversaire nous a vu toutes les deux. Je fais la moitié de Laetitia Casta en large et en long. Et elle a dit, mais c'est laquelle? Puisque Laetitia avait donné mon passeport en même temps. Et là, j'ai dit à Laetitia, lui réponds pas, s'il te plaît. Laisse-moi kiffer encore 30 secondes.
On avait salué Catel, on salue Laetitia Casta et je vous salue aussi Hélène Manarino, vraiment
avec
bravo,
plaisir.
À très très vite, vous restez avec
merci,
nous
merci Anne beaucoup Goscinny. Hélène
on va parler musique avec Angèle Châtelier en direct de Bourges pour un festival spécial scène française, à tout de suite.
9h, 11h Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
En compagnie d'Anne Goscinny, Le Monde de Lucrèce est le 5e tome, c'est dessiné par l'illustratrice Catel. C'est plus que dessiner, c'est illustrer. Ça a même été, vous l'avez dit, c'est susciter ses aventures. C'est chez Gallimard Jeunesse. Il y a un chapitre, il y a 10 chapitres. Il y a un chapitre dans lequel je me suis dit que ça vous avait touché en tant que maman. C'est le chapitre « Ma mère est une ado ». En gros, elle ne sait pas comment s'habiller. Elle doit aller retourner voir ses amis de jeunesse, ses amis d'enfance. Elle ne sait pas comment s'habiller. Elle s'habille un peu dans le style faux jeune. C'est du vécu.
Mais ce n'est pas du vécu, c'est du contemporain. C'est-à-dire que moi, mon style vestimentaire n'a pas du tout évolué depuis mes 14 ans. Alors là, je m'habille un peu pas comme ma fille, parce que heureusement pour elle, on n'a pas la même silhouette. Mais je pense qu'elle, elle va évoluer. Un jour, elle s'habillera comme une dame. Et moi, je resterai éternellement une ado. Donc un jour, je serai habillée comme mes petits-enfants.
Alors on est à la radio. Racontez, c'est quoi votre style des vestimentaires?
Moi, je vis en jean, en basket et avec une chemise ou un t-shirt.
Oui, mais ça a plein de gens. C'est pas très, très grave. Oui, moi aussi, j'ai une jean, des baskets.
Oui, mais moi, c'est tout le temps. C'est-à-dire qu'éventuellement, j'ai des baskets de soirée avec des strass quand je suis invitée à dîner, ou des baskets plus détendues pour le déjeuner. Ouais. Mais c'est tout le temps. Oui, j'ai pas évolué. D'ailleurs, il faudra que j'y pense.
Vous avez dit au sujet de Lucrèce, c'est l'anti-Harry Potter. Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que Harry Potter, c'est la magie. Harry Potter, une baguette magique, il vole sur un balai, enfin, il fait plein de choses. La magie de Lucrèce, c'est l'amour de sa mère, de son beau-père et de son père. C'est l'amitié avec ses copines. C'est le bonheur de retrouver sa communauté en allant au lycée. J'ai trouvé que c'était pas plus difficile, parce que Harry Potter, c'est extrêmement périlleux comme exercice, mais j'ai trouvé que c'était un challenge encore un peu plus amusant de se dire « je vais mettre de la magie sans magie ».
Évidemment, parce qu'il n'y a aucune béquille. Aucune. Je vous posais cette question que posent parfois Libé quand ils sont un petit peu décontenancés par un livre. Ils font « pourquoi ça marche ?» Vous êtes posé la question « pourquoi ça marche ?» que vous-même, vous êtes surprise du succès de cette série.
Alors, je pense que s'il y avait une recette, on l'appliquerait
évidemment.
Tous. Je pense que ça marche parce que je m'amuse beaucoup. Et parce que j'ai pu enfin presque assumer cette filiation avec le petit Nicolas, parce que Lucrèce est un peu une grande sœur du petit Nicolas. Bon, elle a une façon de s'exprimer qui peut faire penser au petit Nicolas.
Je pense à quelque chose. Vous mettez toujours les fringues de votre adolescence. Est-ce que vous écoutez toujours la musique de votre adolescence?
Alors oui, bien sûr, puisque j'ai découvert Anne Sylvestre très tôt. Et j'écoute toujours en boucle Ferrat, Ferré, Brassens, Brel, Barbara, Anne Sylvestre. Je n'écoute que ça.
Jamais de rock?
Non, jamais de rock. Jamais de musique anglo-saxonne. C'est-à-dire que si demain, je me fais écraser par un autobus et qu'on retrouve mon portable, on regardera la musique dedans et on se dira, c'est pas grave, elle devait avoir 95 ans celle-là. C'était le temps, elle a fait son temps. Or non.
L'enchaînement est tout trouvé. Bonjour Angèle Châtelier.
Bonjour Philippe.
Vous êtes au téléphone parce que vous êtes en direct du Bourges, pour le festival Les Inouïs, une sorte de déclinaison du Printemps de Bourges, c'est bien ça?
Oui, on a quelques problèmes de wifi, c'est aussi ça les festivals, hein. Donc je suis au téléphone. Alors oui, Les Inouïs du Printemps de Bourges, c'est un tremplin musical pour les groupes émergents. Chaque année, il y a un gagnant qui a la chance de pouvoir ensuite se produire au Printemps de Bourges, grand festival annuel, quelques 250 000 spectateurs qui déambulent dans la ville et dans les salles de spectacle de Bourges. Alors parmi ceux qui sont passés par Les Inouïs, Philippe, on peut noter Eddie de Preto, Christine and the Queens ou encore Fishback.
Ça va faire plaisir à Anne Goscinny, c'est en français, Angèle.
C'est ça, et le Printemps de Bourges a été l'un des premiers festivals à avoir été annulé au début de la crise. Du coup, l'artiste qui aurait dû gagner Les Inouïs n'a pas pu se produire sur une grande scène.
Mais il y avait bien une version internet, ou je me trompe?
Oui, tout à fait, mais pour les artistes qui étaient nommés aux Inouïs, c'est loin d'être une exposition suffisante. Heureusement, les équipes du festival ont pu faire en sorte de les mettre en avant cette semaine, directement à Bourges, où je me trouve, dans une version assise et distanciée, forcément.
Alors Angèle, qui sont les artistes qui ont leur chance de gagner le tremplin?
Eh bien, la grande favorite cette année, elle s'appelle PR2B.
Avions tout pour nous aimer, ma
Alors, PR2B, c'est Pauline Rambaud de Barallon, une artiste qui sort de la FUNIS, une prestigieuse école de cinéma. Elle est aussi clarinettiste et donc chanteuse. Elle était en concert ce dimanche à la Bibliothèque historique de Paris aux côtés de ses amis qui sont aussi chanteuses, Pomme et Juliette Armanet. Le Festival des Inouïs du Printemps de Bourges, c'est jusqu'à demain. Aujourd'hui, c'est une affiche plutôt rock avec Johnny Carwash et Bandy Bandy qui ont aussi leur chance pour être les grands gagnants de ce tremplin musical. Les Inouïs du Printemps de Bourges est l'un des seuls festivals qui a pu se tenir cette année. Il se terminera d'ailleurs par deux concerts d'artistes confirmés, Pomme et Aloïs Sauvage.
Et on espère que le Printemps de Bourges, le vrai, pourra se tenir l'année prochaine. Merci beaucoup, oui. Angèle Châtelier. Réaction, Anne Goscinny.
Mais je ne connais rien de tout ça. Je pense que j'étais avec l'hôtesse qui m'a prise pour Laetitia Casta dans une grotte, en fait, ces 50 dernières années.
Vous allez adorer. On va écouter Aloïs Sauvage qui sera en concert demain aux Inouïs du Printemps de Bourges. Aloïs Sauvage qui sortait son album juste avant le confinement. Et voici le titre À l'horizontale, tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Anne Goscinny est toujours dans ce studio. Eva Rock l'avait quitté mais vient de revenir et on s'en réjouit. Eva voulait mettre en avant un documentaire Netflix intitulé The Social Dilemma. C'est sous-titré Derrière nos écrans de fumée. Le sujet de ce documentaire,
eh bien, c'est ce qu'on appelle communément les GAFA. Google, Apple, Facebook, Amazon, mais alors aussi Twitter, Snapchat, Instagram, Pinterest. Vous savez, ces géants de l'Internet et ces réseaux sociaux qui nous rendent un peu zinzin. Il faut le dire quand
Parlez
même.
Pour vous.
On est un peu accro. Vous avez votre portable devant vous alors que moi, je ne l'ai pas, Philippe. Oui, vous voyez, c'est la différence entre vous.
Il est à plat ventre, je ne regarde jamais.
Ventre, d'accord. Alors que les réseaux sociaux utilisent nos données personnelles, qu'ils soient des vecteurs de fausses informations, qu'on soit addict et que les algorithmes dirigent nos vies numériques, tout ça, on le savait, mais écoutez ce qu'en disent ces témoins.
Quand j'étais là-bas, je pensais qu'on agissait pour le bien de tous. Maintenant, je n'en suis plus si sûr.
J'ai quitté Google en juin 2017. C'était principalement pour des problèmes d'éthique dans l'industrie, pas simplement chez Google. Je suis très inquiet, très inquiet.
Et alors, qui sont ces témoins ?
Eh bien, les gens que vous venez d'entendre sont des hauts cadres de chez Facebook, Google, Twitter et consorts, ou plutôt des ex-hauts cadres. Ils ont tous quitté leur entreprise et ils ont donc accepté de parler dans ce documentaire. C'est assez rare pour le souligner. Ils espéraient en fait changer le monde, faire du bien, comme ils disent, et ils se sont retrouvés face à des questionnements éthiques, déontologiques, parce qu'ils ont vu les dégâts que provoquait cette addiction aux écrans, à commencer auprès des plus jeunes, comme le précise ce psychiatre.
Comment s'occupe-t-il ? Ils rentrent de l'école et sont scotchés aux écrans. Une génération entière est désormais plus anxieuse, plus fragile et plus dépressive. Ils ont aussi beaucoup plus peur de prendre des risques. Ils passent par exemple leur permis de plus en plus tard. C'est également le cas pour les relations amoureuses. Le taux de rencontre a fortement baissé.
Alors nous sommes devenus les produits des GAFA, nous sommes manipulés sur un plan commercial et évidemment politique également.
Alors pardon de dire ça, mais ce n'est pas très très nouveau. On se souvient du scandale Cambridge Analytica pendant les élections présidentielles aux États-Unis.
Oui exactement, mais cette influence sur les votes, elle a des conséquences extrêmement bien décrites dans ce documentaire et qui est décrit par ses anciens cadres. En fait, c'est la polarisation des démocraties. Vous êtes démocrate ou républicain, vous êtes de droite ou de gauche, pour ou contre. En fait, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de nuance. Tout ça parce que les algorithmes vous enferment dans votre propre opinion et donc vous radicalisent et vous confortent dans vos idées, même quand il s'agit de dire que la Terre est plate.
La conspiration de la Terre plate a été recommandée des centaines de millions de fois par l'algorithme. On peut se rassurer en se disant que ça ne touche que quelques personnes stupides, mais l'algorithme devient de plus en plus intelligent chaque jour. Aujourd'hui, il arrive à convaincre des gens que la Terre est plate. Mais bientôt, ce sera peut-être à votre tour d'être berné aussi.
The Social Dilemma a une qualité, celle de poser les bonnes questions. Pour les réponses, c'est beaucoup plus compliqué. Si les témoins du documentaire appellent à une réforme des GAFA, et ils le savent bien puisque eux faisaient partie de ce système-là, on comprend que les intérêts financiers aussi, pour l'instant, prennent le pas sur une quelconque déontologie. Alors, pour finir, vous noterez quand même l'ironie de la situation parce que le documentaire, il est diffusé sur Netflix, une plateforme qui contribue évidemment à notre addiction aux écrans, mais je vous le recommande grandement. ça fait quand même réfléchir, parce que même si c'est des choses qu'on sait, on a tendance à couper un peu plus son portable et surtout à enlever toutes les notifications.
Anne Goscinny, vous avez quelle attitude vis-à-vis des écrans, vous-même et aussi vos enfants ?
Alors, mes enfants, ce sont des ados de 17 et 19 ans, donc ils sont forcément un peu addicts. Et moi, histoire de faire jeune, j'adorerais être addict. Du coup, je me suis abonnée à Instagram, mais je ne sais rien faire. Donc, je vais les solliciter l'un ou l'autre. Et l'autre jour, j'ai mis une photo de mon chat en profil sur Instagram. Et ils m'ont dit, mais en fait, t'es qu'une bolosse. Et voilà. Donc j'ai appris ce mot à cette occasion-là. Donc j'ai appris en même temps et Instagram et que j'étais une bolo. Ça fait beaucoup d'informations pour une même femme.
Mais vous savez, vous risquez d'avoir beaucoup de likes grâce à cette photo de chat sur Instagram. Mmh.
Mais c'est au moins qu'il me serve à quelque chose puisqu'il ne m'aime pas et qu'il ronronne pas dans mes bras. Donc oui, au moins.
Voilà, vous restez avec nous.
Absolument.
On va pas ronronner, on va poser plein de questions. On est avec la romancière Anne Goscinny. Merci Eva. À demain.
Merci.
Vous restez avec nous. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
En compagnie d'Anne Goscinny qui signe Le Monde de Lucrèce chez Gallimard Jeunesse, on l'a dit mais je le répète parce qu'elle n'en revient pas, 150 000 exemplaires vendus déjà et ça continue.
Elle n'en revient pas mais elle s'y habitue.
C'est dessiné par Catel. comme disait Raphaël Villédou dans un titre, prends garde à la douceur des choses. Avec Catel, vous aviez aussi fait ce livre, Le Roman des Goscinny.
Oui, un jour je lui ai dit, mais tu t'es intéressée à des figures majeures, Kiki de Montparnasse, Olympe de Gouges, Benoît de Groult, et pourquoi pas mon père ? Et elle m'a répondu, mais je ne m'intéresse qu'aux femmes, ton père n'est pas une femme. Bon, c'était pas un scoop. Et finalement, elle a réfléchi et elle m'a dit, je vais faire le portrait de ton père, mais par tes yeux, donc tu vas me raconter ton père. Et elle a fait ce livre merveilleux, qui s'appelle Le Roman des Goscinny, dont j'espère qu'il y aura un jour un second volume. Et c'est vrai que notre amitié est née comme ça.
Si je me souviens bien, il s'arrête à la création d'Astérix, c'est ça ?
Il s'arrête en 59, mais heureusement, il a vécu jusqu'en 77. Donc, si elle nous entend, j'aimerais bien qu'il y ait la suite.
Vous êtes désormais détentrice du droit moral de l'œuvre de René Goscinny, votre papa. Concrètement, ça consiste en quoi ?
Oh, c'est plus important encore que le droit moral. Ça consiste à veiller sur les personnages qu'il a créés ou co-créés, puisqu'il a toujours co-créé des personnages. Là, en l'occurrence, depuis la disparition d'Albert Uderzo, le 24 mars dernier, je fais ça avec Sylvie Uderzo, la fille d'Albert et sa femme, Ada. Et ça consiste tout simplement à être destinataire de projets et à dire, là je pense qu'on est dans le juste ton et là je pense qu'il faut passer son chemin.
En fait, c'est à vous qu'il faut demander si on veut faire un film sur Astérix, par exemple, ou un parc d'attractions.
C'est aussi à moi.
Pourquoi vous avez dit oui au parc d'attractions ? Pourquoi il y a un parc Astérix ?
Alors d'abord, Albert Uderzo était évidemment toujours là quand le parc a été inauguré en 1989, mais mon père était un fou de parc d'attractions et il m'avait beaucoup emmené à Disneyland, aux États-Unis, etc. Et il pouvait faire les Pirates des Caraïbes en boucle 250 fois, la maison hantée. Et je me souviens de ma mère qui disait, mais j'en peux plus des pirates et des maisons hantées et qui s'assied sur un banc épuisé. Et mon père avait 8 ans, quoi. C'était formidable. Oui, c'était son grand truc, les parcs d'attractions.
8 ans d'âge mental. Votre papa, Rod, 8 ans, il est le créateur du petit Nicolas avec Sampé. Il y a un film qui doit bientôt démarrer ou qui va démarrer ?
Le tournage a démarré sous la direction d'un homme très talentueux qui s'appelle Julien Rapneau, qui lui aussi est le fils de Jean-Paul Rapneau. Non, je ne suis pas la fille de Jean-Paul Rapneau, mais on est des enfants d'eux.
Ouais.
Et on a décidé, lui comme moi, de suivre le chemin de nos pères. Et le film va être formidable. Jean-Paul Rouve joue le père, Audrey Lamy joue la mère. Il y a Arditi, il y a Daroussin. Enfin, je sais que l'ambiance sur le tournage est très très bonne. Et je n'ai aucun doute, je pense que ça va être un très grand film.
Et si je suis bien informé, Canet doit tourner Astérix en Chine.
Voilà, il devait déjà tourner en mars dernier. Mais mars dernier en Chine, ça vous dit peut-être quelque chose, c'était compliqué.
Ouais, ah oui.
Donc c'est reporté à mars de cette année, de 2021. Et évidemment, j'ai lu le scénario, un peu modifié par moment le scénario. Et je peux vous promettre aussi quelques francs moments de rigolade.
Peu de gens le savent, mais y compris dans la politique, c'est votre papa qui a inventé la formule, sinon is no good, devenir calife à la place du calife.
Oui, il a inventé plein d'expressions qui sont aujourd'hui dans le domaine public. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas allumer la radio ou lire un journal sans lire « Il est tombé dedans quand il était petit », référence à Obélix et à la potion magique. Vouloir être calife à la place du calife, avoir peur que le ciel vous tombe sur la tête, effectivement. Et c'est assez magique de me dire qu'on parle le Goscinny 42 ans après sa mort.
Et il y a même une loi Goscinny, une loi médicale Goscinny qui concerne les tests cardiaques. J'ai appris ça en préparant cet entretien.
Oui, mon père est mort effectivement à 51 ans pendant le test d'effort. alors qu'il était sur un vélo et qu'il pédalait.
Chez un cardiologue.
Chez son cardiologue. Et il a décrit les symptômes de l'infarctus. Et le cardiologue ne l'a pas écouté. Il lui a dit, monsieur Goscinny, encore 15 secondes. J'ai pas de place avant longtemps. Encore 15 secondes. Et il s'est écroulé. Il est mort chez son cardiologue.
Et la loi, désormais, interdit, si j'ai bien suivi, que les cardiologues effectuent des tests de résistance cardiaque. C'est ça ?
En tout cas, sans salle de réanimation à côté. Et finalement, je trouve que pour un humoriste, mourir d'un infarctus chez son cardiologue, on est chez Alphonse Allais.
Ouais. Votre papa est mort quand vous aviez 9 ans. Votre maman, quand vous aviez 25 ans. Emporté par un cancer. Pourquoi vous avez choisi d'habiter à seulement 200 mètres de l'appartement où vous habitiez quand vous étiez tous les trois en famille ? Et je vois que ça vous fait sourire. Est-ce que on se dit comme ça de l'extérieur, c'est pesant ?
Mais non, c'est léger au contraire. Je vais à la pharmacie où ils allaient, je vais acheter mon journal là où ils achetaient leurs journaux. Et parce que, vous savez, l'espoir fait vivre et je me dis, et si un jour je croisais leurs ombres ?
Waouh !
Voilà. Et j'ai et mes enfants...
Et puis il y a la statue !
Et maintenant, depuis janvier dernier, il y a une très belle statue en face de l'immeuble dans lequel on habitait. Et puis, j'aime raconter à mes enfants, voilà, on allait là, on allait dans ce restaurant-là. Et je trouve que loin d'être morbide, au contraire, c'est porteur d'espoir. Voilà.
D'un mot, vous voulez annoncer une dédicace ?
Oui, avec Catel, on dédicace Lucrèce 5 chez Lamartine, la très belle librairie dans le 16e, 118 rue de la Pompe, samedi prochain à 16h. Si vous avez envie de passer, venez.
Il faut le faire et il faut le dire parce que les librairies sont ouvertes et vraiment les libraires ont besoin de notre soutien. Ici, on est émission de culture.
Je sais.
Et ça nous fait plaisir. Normalement, on ne fait jamais ce genre d'annonce, mais là, il faut allez-y. Merci,
merci
Anne Goscinny d'avoir été avec nous. Je le répète, le monde de Lucrèce 5, Anne Goscinny et Catel, c'est disponible partout chez Gallimard Jeunesse. Et puis nous, demain, on se retrouve à 9h évidemment pour Culture Média. Nous serons avec Bernard de la Villardière et Patrick Spica pour une enquête exclusive spéciale Algérie, c'est sur M6. Ensuite, Anne Scott, la romancière, pour un roman vraiment hors norme. Ça parle de la lutte contre le djihadisme. Juste après le flash, Anne Romanoff et sa bande. Ça fait du bien, c'est le nom de l'émission. Merci encore Anne Goscinny. À demain.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.